Hi,
Bonjour, je suis Alan Gragan. Je vais diriger les débats de cette séance. Cette séance est enregistrée. Il y a des services d'interprétation. Soyez les bienvenus. On a beaucoup de membres au panel, donc on va faire les présentations. Pour vous laisser le temps à la fin de poser des questions. Alors, le rôle des pratiques volontaires dans la lutte contre l'abus et les activités illégales, les abus et les activités légales. Alors, il y a un an, on a commencé à travailler pour tenter de voir dans quelle mesure l'ICANN pouvait jouer un rôle de facilitateur pour encourager des mesures et essayer d'aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises dans ce domaine. Donc, on va vous donner un aperçu des pratiques actuelles, des pratiques volontaires et du rôle de ces pratiques dans la lutte contre les activités illégales et les abus dans plusieurs secteurs de l'industrie. Plusieurs membres du panel vont prendre la parole pour parler des expériences réussies dans ce domaine. Alors, le rôle de l'ICANN, comme Fadi l'a dit dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture, l'ICANN n'est pas la solution en soi, mais peut faire partie de la solution. Certains dans la communauté aimeraient que nous soyons un régulateur de contenu. Nous ne le sommes pas. Nous avons la responsabilité de coordonner au niveau mondial les protocoles de numéros et d'adresses. C'est un rôle extrêmement important, mais c'est un rôle limité en ce qui concerne l'impression de la portée ou de l'ampleur. Donc, comme Fadil l'a dit, notre rôle se cantonne à la couche technique. Nous ne sommes pas là comme juge ou membre du jury. Et nous ne pouvons pas imposer des solutions au gouvernement et nous immiscer dans leur législation. Donc, nous avons une mission, mais je pense que nous pouvons jouer un rôle, à savoir encourager, coopérer et faciliter la tâche de plusieurs membres de la communauté qui sont confrontés à ces questions épineuses. On peut également participer à des institutions, aux efforts des institutions qui essaient de résoudre ce problème, et nous devons le faire dans le cadre de la mission limitée de l'ICANN. Alors, aperçu des pratiques volontaires. Là, je vais vous faire une introduction générale, parce que les membres du panel vont ensuite rentrer dans le détail. Je pense que d'une manière générale, et pour simplifier un peu les choses, il y a deux approches différentes aux pratiques volontaires. L'une, c'est les négociations privées qui donnent lieu soit à des engagements contraignants ou des protocoles d'accord par lesquels les parties doivent entreprendre telle ou telle action. Ces engagements ou accords peuvent être publics ou privés et confidentiels. Très souvent, ils sont confidentiels parce que on comprend que les parties entreprennent des actions, mais tout cela doit rester confidentiel. Donc, ça dépend de la volonté de la partie de voir quand est-ce qu'il est approprié d'entreprendre ces mesures ou ces actions. Ensuite, autre catégorie, il n'y a pas d'accord formel, il n'y a pas d'accord ou d'engagement contraignant, mais on fait confiance à des sources de confiance. On a recours donc à des sources de confiance, pour entreprendre ces actions. Alors, quels sont les points communs entre ces solutions volontaires? Lorsqu'il y a des négociations, les négociations sont parfois organisées par une partie tierce de confiance ou par un médiateur, ou parfois il s'agit de négociations bilatérales entre les parties affectées qui cherchent ensemble à trouver une solution au problème, ou les parties qui pensent qu'ensemble elles peuvent trouver une solution à ce problème. L'objectif final, c'est une réglementation fondée sur le marché volontaire, mettre en place un cadre réussi qui parfois peut prendre un an à mettre en place, et que les gens travaillent ensemble. On a souvent recours à une partie tierce de confiance. Pourquoi est-ce que les gens adoptent des pratiques volontaires? Elles ne sont pas obligatoires, donc pourquoi le faire? D'abord, ça dépend des circonstances et du fait que parfois il y a une obligation potentielle. Parfois, il en va de la réputation de la partie. Il y a des motifs financiers, il y a toute une série de motifs donc, qui entrent en jeu. Alors, on va passer à la discussion de panel. J'aimerais vous présenter rapidement les membres de panel. Alors, Marjorie Clifton, qui représente le milieu pharmaceutique, elle est là. Donc, il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui essaie de régler le problème des produits pharmaceutiques illégaux en ligne. John Houghton, PDG de LegitScript. LegitScript travaille également pour essayer de résoudre le problème des produits pharmaceutiques malveillants en ligne. Il travaille à CSIP et donc à LegitScript. Christophe Klassen, directeur des politiques et des affaires publiques de Internet Watch Foundation, qui travaille dans ce domaine. Également, Tosu Lang, cofondateur de Elip Limited. Il est là. Donc, conseiller politique à la Chambre du commerce aux États-Unis. Tom Daly, qui est assis à côté de moi. Actuellement, directeur et conseiller général de Verizon International. Il est président du système Copyright Alert System. Il s'agit d'un système volontaire qui participe aux ISP aux États-Unis. Et les notifications sont envoyées aux personnes qui sont inscrites aux ISP. Ensuite, Roman Hussey, chercheur sur la sécurité et directeur de abuse.ch. Benedict Addis, membre du SAC à l'ICANN. Et il a deux casquettes. D'abord, la Non-Profit Shadow Server Foundation. Et son projet le plus récent, la mise en place d'un bureau d'enregistrement de dernier ressort, c'est-à-dire un nouveau système pour les bureaux d'enregistrement. Ensuite, Dave Piscitello, il est où? Ici. Donc, chargé de la sécurité et de la technologie et de la communication à l'ICANN, avec un groupe de travail sur le hameçonnage. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un groupe différent. C'est un groupe à but non lucratif. Ensuite, Frank Cullen, qui est directeur exécutif de la Chambre de commerce des États-Unis et du Centre sur la propriété intellectuelle mondiale de la Chambre du commerce aux États-Unis et qui cherche à mettre en place les pratiques volontaires pour lutter contre les abus et les pratiques illégales. Et ensuite, Bertrand de la Chapelle, vous le connaissez, ancien membre du conseil d'administration de l'ICANN et cofondateur et directeur du projet Internet and Jurisdiction Project, un projet très ambitieux pour tenter de résoudre les problèmes transnationaux par rapport à l'accès à l'identification et autres. Donc, je vais maintenant céder la parole à Marjorie et à John, qui va intervenir en premier. Marjorie, au micro. Oui, il y a beaucoup de monde. Vous voulez que je commence? Marjorie, au micro. Alors, comment voulez-vous que je présente ces diapos? Bon, très bien. Merci. Je m'appelle Marjorie Clifton. Directrice du CSIP, étant donné qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était me concentrer sur les réussites qu'on a enregistrées, parce que je sais que c'est un espace de défi pour vous. C'est un domaine qui pose beaucoup de problèmes. Donc, on a commencé en 2010 avec des organisations qu'on appelle intermédiaires de l'Internet. Donc, ça inclut des opérateurs de registre, bureaux d'enregistrement, transporteurs, personnes qui s'occupent du traitement des paiements, toutes les personnes qui s'occupent de la recherche, de la prescription des produits pharmaceutiques et du transport des produits pharmaceutiques. Donc, Nous avons pris le modèle de NCMEC, que vous connaissez peut-être pour certains. Et pourquoi nous avons fait cela? Parce qu'il y avait des décès associés à la prescription de produits pharmaceutiques et à des produits pharmaceutiques douteux qui étaient vendus en ligne. Donc, quelle est l'ampleur du problème? Dans quelle mesure cela affecte les consommateurs? 97% des produits pharmaceutiques en ligne actuellement sont illégitimes. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas les législations des pays où ils sont vendus ou vers lesquels ils sont acheminés. En raison de cela, en partenariat avec la Maison-Blanche, on a rassemblé des entreprises qui incluent Newstar, Whiteside et GoDaddy, qui sont très actives pour soutenir les membres de notre conseil d'administration et ont réuni également des principes de participation. Il s'agit d'un document qui décrit la manière dont les différents secteurs de l'industrie vont régler ce problème. Je pense qu'Alan vous l'a présenté. Pourquoi c'est important? Bien entendu, il y a des questions de responsabilité, surtout pour ce qui concerne quelque chose qui est consommé par les gens et qui peut potentiellement entraîner leur décès. Donc, très souvent, on voit beaucoup de gens qui sont poussés dans cette direction et les consommateurs ne comprennent pas bien les enjeux ici. Notre mission, réellement, consiste à éduquer, donc éducation des consommateurs, mais éducation du secteur de notre d'activité aussi. Il y a des entreprises, vous voyez, leur nom ici, il y a 13 entreprises qui siègent à notre conseil d'administration et échange d'informations entre les entreprises en se concentrant sur les meilleures pratiques que vous pouvez utiliser, les pratiques les moins onéreuses qui vont vous couvrir en termes de responsabilité, mais également permettront aux entreprises de bénéficier d'un saut de confiance sur le marché. Donc ça, c'est important au niveau de la communication. Et ça, ça a aidé non seulement notre secteur de l'industrie, mais également toutes les personnes qu'on a contactées en termes d'application de la loi, réglementation et autres, comprendre la préoccupation de nos entreprises. Donc, à mesure qu'on devient de plus en plus mondiaux, en Asie, on parle de cette question et on va devoir avoir beaucoup plus de dialogue pour faire comprendre aux gens ce que sont les bureaux d'enregistrement opérateurs de registre, parce qu'on ne va pas pouvoir tout simplement teindre l'Internet un jour. Donc, le gros problème, c'est essayer de faciliter ce dialogue et essayer de faire comprendre à nos gouvernements la manière dont nos entreprises fonctionnent. C'est un peu choquant, mais parfois, les politiques n'ont pas toujours travaillé dans le secteur privé, donc elles ne savent pas comment fonctionnent les entreprises. Donc, expliquer ce dont on a besoin lorsqu'on prend des actions, comme nos entreprises le font. Donc, ce genre de choses. C'est là-dessus qu'on taille surtout. J'ai beaucoup parlé déjà de cela, donc je veux me concentrer sur les succès. Ce qu'on essaie, c'est d'essayer de frapper ces entreprises illégales sur plusieurs fronts. D'abord, éliminer les publicités abusives et illégales. Donc, il ne s'agit pas simplement des bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre, mais tous les gens qui interviennent dans cet espace. Donc, on essaie d'agir de manière collective et mondiale. Il s'agit d'une plateforme mondiale, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et ce qu'on entend de la part des personnes chargées de l'application de la loi, des gouvernements, etc., c'est qu'il faut éduquer les consommateurs. Il faut absolument introduire une partie d'éducation. Lorsque les consommateurs sont bien informés, alors on peut les faire participer. Et d'ailleurs, si ces diapos vous intéressent, ou si vous avez des informations qui vous intéressent plus particulièrement, je suis à votre disposition pour vous fournir cette présentation. N'hésitez pas à venir me voir. Là encore, beaucoup de statistiques quant à l'impact. On parle de 100 000 décès par an liés aux produits pharmaceutiques illégaux et la difficulté pour le consommateur. Alors, à SIP, on a des données qui vont être publiées cette année pour élaborer un profil de. Ils sont très éduqués, ils ont plus de revenus et ils pensent qu'ils sont suffisamment intelligents et qu'ils savent ce qu'ils font. En fait, c'est pour éclairer les consommateurs. Donc ça, ça nous sert à savoir quel type d'éducation il faut leur fournir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler après moi, donc je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, principe de participation. Les entreprises adorent les bonnes pratiques, mais on a réussi à faire en sorte que nos secteurs travaillent ensemble et nous disent voilà ce qui fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en place. On essaie de définir la manière dont on peut se protéger, mais également où et quand prendre des actions, entreprendre des actions. Alors, quels sont les succès enregistrés ? Sur l'année dernière, nous avons fermé 9,6 millions de sites. Et ça, c'est significatif, parce que il y a une augmentation de 1 million de ce chiffre par an. Nous savons que nous sommes chaque année meilleurs dans ce que nous faisons, mais ça ne veut pas dire que le problème a ralenti. Il faut continuer à s'améliorer d'année en année. L'une des choses également que nous faisons au CSIP, c'est de faciliter des actions d'application de la loi. Et pour ce faire, nous avons vu beaucoup d'impact dans notre travail avec les agences de réglementation, agences d'application de la loi. Des entreprises entreprennent des actions sur des mesures très spécifiques. Saisie de produits pharmaceutiques potentiellement dangereux, évalués à 80 millions de dollars. Ici, l'essentiel, c'est de toucher le cœur de l'activité illégale. Et pour être honnête ici, il y a un nombre limité de criminels qui agissent. Donc, comment toucher finalement les plateformes principales de cette activité ? Autre activité que nous avons entreprise, créer des publicités avec des mots-clés que nous savons qui pèsent avec plusieurs traductions. Et nous savons que lorsque les clients recherchent un produit pharmaceutique, ils font cette recherche. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on s'aperçoit que les clients recherchent de bonnes informations. Et en général, lorsqu'ils font ces recherches, nos publicités Google, c'est ce qu'ils recherchent en général. Donc, on a touché beaucoup de nos clients avec 22 millions d'impressions. Beaucoup de travail également dans les réseaux sociaux. Nous avons fait une pub à Times Square qui a obtenu des millions et des millions de visions. Et dernier point, souligner encore ce travail de communication entre la communauté. En décembre, nous invitons aux États-Unis les parties prenantes et les responsables de beaucoup d'agences gouvernementales, à but non lucratif, privées, etc., dans le but de faire comprendre aux uns et aux autres notre point de vue. Et chaque fois qu'on organise ce genre de choses, on voit des résultats spectaculaires, y compris des gens qui travaillent et qui se rendent compte qu'ils ne travaillent pas de manière coordonnée. Donc, promouvoir ce genre de dialogue et la compréhension de la nature changeante et évoluante de ce problème. Également pouvoir être utile parce que tous les gens qui travaillent au gouvernement souhaitent aider, mais il s'agit simplement de les mettre en lien, essayer de protéger nos entreprises et être plus efficace et d'ailleurs ne pas perdre d'argent. Donc merci de nous avoir invités, merci de nous écouter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qu'on veut, c'est un dialogue et la diffusion de ce message. Donc, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce qu'on fait. Merci, Marjorie. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que cette présentation sera disponible en ligne. Je vais maintenant passer la parole à John Horton. John Horton au micro de Legit Script. Je vois beaucoup de gens que je connais, bureau d'enregistrement et opérateur de registre. Je suis heureux de vous revoir. J'ai une présentation avec 8 diapos, donc je vais les passer en revue rapidement. Comme Marjorie l'a dit et Alan l'a dit, Ici, à Dublin, nous avons un bureau avec 65 personnes qui travaillent. Ce qu'on essaie de faire, c'est de fournir des informations. Non, en fait, ça, c'est pas ma présentation. Oui, il y a un petit problème dans la présentation à l'écran. Passer à la diapo suivante. Alors, comme Marjorie l'a dit, pourquoi est-ce que ça devrait nous inquiéter, ce problème? Parce que plusieurs secteurs sont affectés. Dans certains pays, les médicaments doivent être vendus sur ordonnance, d'autres non. Donc, seuls 3% des entreprises travaillent de manière légale. Donc, ici, on aimerait que ce chiffre augmente parce que 97% des entreprises travaillent de manière illégale. Donc, il y a un problème ici. D'abord, il y a un problème de vente de médicaments sans ordonnance. Et ça, c'est un problème mondial. Ça ne concerne pas un seul pays. Deuxièmement, les produits pharmaceutiques ont un problème, soit de contrefaçon ou autre. Donc, ils ne sont pas licites. Troisièmement, il y a des médicaments frauduleux qui sont donc vendus. Donc, quels sont les problèmes? Lorsque vous avez des produits frauduleux, il y a d'abord des effets secondaires. Par exemple, un patient qui souffre de cancer pense que en prenant ce médicament, il peut traiter son cancer. Or, il ne l'est pas. Donc, et ça, c'est un domaine où il y a un certain niveau de risque réglementaire. Parfois, on fait appel à des intermédiaires avec des pharmacies illicites. Donc, l'approche sur laquelle on travaille de manière formelle ou informelle avec les bureaux d'enregistrement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Chaque bureau d'enregistrement est différent. Mais ce qu'on fait toujours, c'est voilà. Voyons quels sont les termes et conditions, les pratiques les plus courantes que nous aimerions donner plus de clarté à nos clients sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc, on essaie d'améliorer cela. Mais si votre RP dit, voilà, vous ne pouvez pas utiliser ce nom-là, l'une des grosses questions par rapport à l'espace, c'est le contenu. Et je pense que chaque bureau d'enregistrement et opérateur de registre dans la salle savent qu'on n'est pas un gendarme du contenu. Donc, il faut y penser en adoptant le point de vue de l'éducation. Mais il y a une approche qu'on peut adopter, fournir des informations de confiance. Ce que je suggérerais, c'est d'entreprendre des actions là-dessus et savoir quel est l'objectif de ce nom de domaine. Nous aidons les bureaux d'enregistrement tout au long de ce processus, même si les bureaux d'enregistrement nous disent « nous sommes une entreprise licite, que faites-vous » et s'il y a une réclamation d'une partie tiers. Et dans certains cas, on nous dit « nous, on n'a pas ce problème ». Et nous, on leur dit « mais vous devriez quand même entreprendre des actions ». Donc, ce n'est pas un processus automatique. Il faut que les gens soient tenus pour responsables des informations qu'ils fournissent. Parce que s'il y a un problème, ça n'est pas de notre fait. Donc, s'il y a un problème sur un nom de domaine, on est tous d'accord pour dire qu'on regarde les ordonnances, etc., mais on collecte toutes ces informations et on se concentre sur le niveau de légalité. Je n'ai pas indiqué ici les noms de domaine spécifiques parce que je ne veux pointer du doigt personne. Vous voyez ici la substance, les médicaments prescrits. Chaque pays dans le monde, il y a une consultation en ligne qui dit il n'est pas nécessaire d'aller chez le médecin pour obtenir une ordonnance pour ce médicament.
Ça ne devrait pas se voir, où que ce soit dans le monde. Alors, ils disent qu'ils expédient partout dans le monde. Normalement, il faut une licence pharmaceutique pour expédier des produits. Donc, il n'est pas possible d'avoir ce genre de licence. Alors, si on passe à la suivante, voilà ce que l'on voit en termes de saisie par les forces de l'ordre. Alors, diapositive suivante, je vais passer au droit d'appel pour parler un petit peu de ce que nous faisons pour protéger les droits des détenteurs de noms de domaine. Alors, ce qui est important, à mon avis, c'est que toute personne qui notifie d'un abus, en fait, a la charge de la preuve. Donc, il faut protéger les droits des titulaires de noms de domaine. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ce qui est un petit peu différent dans le domaine de l'espace pharmaceutique, c'est qu'il faut établir qu'une entité est en train de vendre des médicaments sous ordonnance. Et donc, il faut pouvoir produire une licence pharmaceutique dans le lieu où les produits sont envoyés. Donc, si le bureau d'enregistrement dit « Est-ce que vous faites ceci de manière légitime ?», la première question, c'est de dire « Est-ce que vous avez une licence pour le lieu où vous expédiez vos produits ?» Et ça, c'est quelque chose qui devrait exister, qui existe partout dans le monde. Nous vérifions cela. Nous avons vu des licences qui sont fausses. Nous travaillons avec vous pour vous donner ces informations. Il n'y a jamais eu d'appel qui ait réussi. Alors, ensuite, je vais maintenant vous laisser poser vos questions à la fin de la présentation de manière à ce que les autres intervenants puissent parler. John. Christophe Klassen maintenant. Bonjour, je m'appelle Christophe. Je travaille pour Internet Watch Foundation. Je vais être bref. Je vais parler de certains aspects de notre travail. Donc, l'Internet Watch Foundation est donc responsable de la lutte contre les abus de produits. Nous existons depuis 20 ans et nous avons été fondés en ligne. Nous avons environ 100 membres, dont des ISP, des différents fournisseurs, différents bureaux d'enregistrement, des plateformes médias, etc., médias sociaux, ainsi que des moteurs de recherche. Nous avons reçu des rapports par rapport à l'abus pornographique d'enfants. Et nous avons plus de 100 pages par jour qui nous sont envoyées et qui montrent des abus donc pédophiles. Nous avons une équipe de 12 analystes. Donc tout le contenu que nous voyons donc est évalué par ces personnes sur la base des lois au Royaume-Uni, qui sont donc des lois très spécifiques. Nos analystes sont également formés à un très haut niveau par les forces de la loi. Et donc nous avons des moyens de les aider du point de vue de leur bien-être pour s'occuper des problèmes qu'ils voient, bien sûr. Nous essayons de nous assurer déjà que c'est un enfant. Parfois, c'est difficile parce que quand c'est une personne qui a 17 ans, voire 19 ans, on ne sait pas, c'est pas très clair. Et puis, il faut que cela rentre dans le cadre de la loi contre l'abus sexuel aux États-Unis. Donc, ceci se reflète dans les statistiques. La plupart des pages web que nous évaluons contient des images pornographique, donc d'enfants qui ont moins de 10 ans. Donc pour 80% des pages, ce sont des enfants de cet âge. Et il y a même des enfants de moins de 2 ans qui apparaissent sur ces images et on estime ce nombre à 40 000, voire 80 000. Donc je travaille dans cette industrie, il n'y a pas de législation qui nous dit que nous sommes obligés de le faire, mais c'est quelque chose qui est fait pour diverses raisons. La première chose, c'est que personne ne souhaite héberger des matériaux d'abus pédophiles. Donc, bien sûr qu'il y a un risque de réputation. Si votre société est associée avec la distribution ou l'assistance à la distribution de ces images, nous fournissons un certain nombre de services aux sociétés de manière à protéger leur réseau par rapport à ceci. Premièrement, la meilleure chose à faire, c'est déjà d'éliminer la source, de manière à éliminer le contenu. Au Royaume-Uni, on travaille avec les forces de la loi pour demander aux fournisseurs d'hébergement d'éliminer ces sources. Ces demandes se font 15 minutes après la demande. Le problème, c'est qu'il y a 0,3% du contenu qui est hébergé au Royaume-Uni. Pour la plupart, l'hébergement est fait à l'extérieur. On parle d'Amérique du Nord, d'Europe, de Russie et autres. Donc, nous faisons passer les renseignements aux force de la loi de ces pays. Le problème, c'est que cela prend plus longtemps. Donc, il y a un certain nombre de services qui peuvent être utilisés. Il y a des listes URL, des listes de pages web qui, donc, montrent des images pédopornographiques. Et les FAIS peuvent donc bloquer l'accès. Nous mettons à jour notre liste 2 fois par jour. Donc, elle est relativement à jour. En moyenne, il y a 1500 URL par jour. Mais encore une fois, c'est une mise à jour tous les 2 jours. Donc, il y en a d'autres qui sont ajoutés et certains qui sont retirés. Nous avons également une liste hash, donc avec une amélioration du processus, une accélération du processus. Nous avons un processus d'empreinte digitale de manière à pouvoir identifier et faire correspondre l'identification. Nous avons également une liste de mots-clés qui peut être utilisée par les moteurs de recherche et nous avons un moyen qui nous permet d'identifier les enregistrements avec des mots-clés. Et si j'utilise certains mots-clés, bien sûr, ils ne devraient pas être enregistrés. Alors, le problème que nous avons, c'est que sur beaucoup des sites web, ils ont une liste de nombres. Ce n'est pas, donc, on ne va pas voir abus d'enfants. Et même s'il s'agit d'un mot-clé, le contenu, parfois, peut être légal. Mon collègue m'a donné l'exemple suivant, que je trouve très étrange. C'est que on peut avoir de la pornographie de 13 ans. Ça peut faire référence à de la pornographie infantile, mais ça peut être aussi de la pornographie qui a pu être, qui peut avoir 13 ans, donc qui a été publiée il y a 13 ans. Donc c'est très difficile et nos analystes donc utilisent les images pour les évaluer, pour s'assurer qu'il s'agit bien de pornographie. Alors le dernier point que j'aimerais mentionner, étant donné que nous traitons d'un contenu qui peut ne pas être vu. Nous sommes une entité indépendante. Nous savons bien qu'il y a une responsabilité en termes de détermination de ce qui est légal et ce qui est illégal. Nous avons eu un audit des droits de l'homme qui a considéré notre processus, qui s'est assuré de la transparence de ce qui devait être fait. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été suggérées, que nous avons mises en place. La manière dont nous structurons le travail, les dispositifs de sécurité que nous avons sont plus que suffisants en termes de transparence, de responsabilité. Donc, notre travail rentre dans le cadre de l'exception en termes de la législation sur la pertinence des droits de l'homme. Et je crois qu'il est important pour nous de le savoir parce que cela nous protège et puis également pour nos membres, puisque nous travaillons de manière volontaire, eh bien, il faut s'assurer que les renseignements sont justes, que les choses sont solides parce que sinon le système ne fonctionne pas. Je suis prêt à répondre à toutes les questions relatives à notre travail dans l'industrie et si vous allez sur notre site web, vous pouvez trouver des informations. Vous pouvez me rencontrer après si vous avez des questions spécifiques. Merci. Tosuang, vous pouvez maintenant prendre la parole. Alors, ICC, ICC Basecap, c'est une initiative pour lutter contre les faux. Et je veux dire par là un certain nombre de produits, y compris les shampoings, les savons, les piles, tout ce que vous voulez, inclus dans ces produits contrefaits. Donc, nos membres se sont beaucoup focalisés sur la lutte contre les faux en ligne. Et je souhaiterais être claire, je ne parle pas de problème avec le micro, je ne fais pas mention des sites web qui vendent une gamme de produits qui pour certains sont authentiques et d'autres non. Je parle de centaines de sites web qui vendent uniquement des faux. Donc, avant d'arriver dans la salle, j'ai parlé à 2 sociétés qui m'ont dit qu'à l'époque, elle s'occupait de 25 000 sites web qui géraient 10 marques. Donc, ça fait 250 000 au total. Ça, c'était une des 2 sociétés. Donc, elles avaient des statistiques à peu près similaires. Je ne peux pas vous dire que toutes les sociétés ont le même chiffre, mais donc, on parle là d'un gros volume. Donc, nous ne sommes pas là pour parler de la manière dont on peut réguler tout ceci, mais je crois qu'il est important pour les propriétaires de marques et pour les bureaux d'enregistrement, d'échanger des informations pour savoir comment traiter tout ceci, parce que c'est vraiment un problème pour tout le monde, pour les bureaux d'enregistrement comme pour les détenteurs de marques. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du protocole d'entente de l'Union européenne de 2011 donc entre la plateforme e-commerce et les grandes marques dans les domaines que je viens de mentionner pour les produits que je viens de mentionner. Donc avant de continuer, j'aimerais reconnaître qu'il y a beaucoup d'autres associations qui ont été impliquées là-dedans, mais donc nous ne sommes pas les seuls, y compris l'association des marques en Europe. Il y a eu un rôle important. Donc, ce protocole d'entente a établi un code pratique pour la vente des biens sur l'Internet, de manière à ce qu'il y ait une réponse efficace de tous par biais de signatures. Alors, l'objectif, c'était déjà de faire confiance au marché. Donc, c'était vraiment une promotion de la confiance en ayant des mesures d'aillées, mais encore une fois, de vente en ligne. Mais en même temps de protéger les consommateurs. Donc, je vais me focaliser sur deux questions, processus, deux apprentissages clés dans le cadre de la négociation de ce protocole d'entente, qui, à mon avis, seront utiles pour cet auditoire. Donc, premièrement, le processus de discussion, le processus de négociation qui nous a mené à la signature du protocole d'entente, ainsi que la signature en allemand. Cela a représenté vraiment des étapes qui ont promu la confiance entre les signataires. Donc, il y a eu des hauts et des bas dans les relations, mais par rapport au point de départ où les parties en étaient presque à un niveau de litige, eh bien, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été effectués. Donc, le fait d'avoir un dialogue a permis aux parties prenantes de mieux comprendre les différentes préoccupations des uns et des autres, puis de mieux comprendre les limites. Donc, il y a eu la confiance, il y a eu également une meilleure compréhension des limites. Donc, la discussion, la taille du groupe a fait que, bien sûr, ceci a pris beaucoup de temps. Il nous a fallu pratiquement 2 ans, des réunions mensuelles de 50 parties. Donc, le consensus n'a été atteint que lorsque quelques personnes ont décidé d'en arriver à un point où on a pu rédiger quelque chose avec seulement quelques parties rassemblées. Donc, du point de vue logistique, la rédaction a été trop difficile avec un grand groupe. Donc, il a fallu discuter des différents termes à utiliser, des différentes positions à inclure. Donc, d'une manière large, même si le processus de négociation large a été utile, nous n'avons pu avancer que lorsque le groupe a été réduit pour la rédaction du document. Alors, deuxième apprentissage clé, ça a été l'utilité de l'organisateur, qui en fait était la Commission européenne, qui a donc permis ce dialogue. Donc, la Commission, à l'époque, pensait mettre en place une législation. Mais elle a décidé de ne légiférer que si c'était absolument nécessaire. Donc, cela a vraiment lancé le dialogue entre les parties. La Commission a organisé déjà le soutien logistique et elle a publié un résumé après chaque séance. Elle a également assuré la transparence du dialogue et la conformité totale avec le cadre existant de respect des droits fondamentaux. Donc, sans elle, sans la Commission, je pense que les parties auraient eu besoin de beaucoup plus de temps pour travailler, pour collaborer ensemble et pour arriver à une conclusion. Donc, pour conclure, il y a beaucoup d'apprentissages que nous avons retirés de ce protocole d'entente qui pourrait être applicable à la situation des bureaux d'enregistrement et à la vente de milliers de marques, de fausses marques sur des milliers de sites. Et je crois que les deux principales préoccupations du point de vue du groupe des bureaux d'enregistrement, c'est donc le volume de plus en plus. Et je crois que nous devons collaborer pour en arriver à une solution qui soit pratique. Puis, également, étant donné que les consommateurs sont impliqués, il faut absolument éviter la possibilité qu'un gouvernement national mette en place une législation. C'était la question à l'époque de cette négociation du protocole d'entente. Donc, il faut absolument éviter la législation nationale qui compliquerait beaucoup le problème. Merci. Bonjour. Je suis Tom Daly. Je suis chef du contentieux chez Verizon International. Et pendant très longtemps, j'ai eu un rôle au sein de Verizon dans le secteur de la politique au niveau national. Donc, beaucoup des problèmes dont nous avons entendu parler, je m'en suis déjà occupée par rapport à ce qui se passe sur l'Internet et qui est mauvais. Donc, c'est très intéressant pour moi, cette discussion de ce matin. Je suis là pour parler du programme bénévole que Verizon a aidé à mettre en place et à négocier avec des ISP des États-Unis ou avec des détenteurs de contenu des États-Unis. Donc, tout ce qui est le contenu développé dans le monde de la musique, de la vidéo, de la télévision, nous y avons participé. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a un programme qui s'appelle, c'est un programme volontaire qui s'appelle le Centre pour les informations sur le copyright. Et donc, ce programme existe pour expliquer que si nous éduquons nos clients, ils pourront mieux comprendre la question des droits de la propriété. Ils comprendront que cela est important. Et puis, nous pourrons amener les clients à des moyens légaux, à obtenir le contenu qu'ils souhaitent de manière légale. Et donc, ce qui est intéressant, j'aimerais parler un petit peu du processus, parce que le programme que nous avons existe depuis quelques années déjà. J'étais président de la Chambre de commerce internationale à une époque, et j'ai supervisé le lancement du programme, et quand je suis arrivée à Londres, j'ai passer le programme maintenant au président de l'organisation. Donc, de notre point de vue, non seulement nous avons participé en tant qu'ISP, puisque Verizon est un des plans ISP aux États-Unis, mais également du point de vue d'un membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce internationale. Alors, la diapositive qu'a affichée Alan, lorsque je regardais tous ces programmes volontaires, explique très bien le problème, parce que beaucoup de ces attributs, ce sont des choses que nous avons vues, que nous avons traitées au cours des années, au fil des années, parce qu'il nous a fallu des années pour en arriver à ce programme. Et si on revient en arrière, vers 6 ans en arrière, en 2009, c'est le moment où nous avons commencé la négociation de notre programme. Il y a quelqu'un qui nous a aidé à nous organiser, donc qui était procureur général de l'État de New York, venu par le gouverneur de New York. Nous nous sommes rassemblés au sein d'un petit groupe et vous savez que cette détention du contenu, ce problème des droits de la propriété, c'est très important. Et nous, en tant qu'ISP, on est toujours la cible parce qu'on a des clients qui ne sont forcément impliqués dans l'illégalité, mais on est un petit peu au milieu. On comprenait le problème, on souhaitait aider et nous savions qu'il était important de s'occuper du piratage. Mais comment le faire de manière à équilibrer les droits et les intérêts des clients avec les droits et les intérêts de la communauté du contenu et des créateurs de contenu? Donc, nous avons commencé par un petit groupe avec quelqu'un qui a organisé la discussion. Donc, le groupe était petit, assez réduit. Donc, il y avait des représentants de la musique, du cinéma, et nous avons commencé à passer en revue ce qui, selon notre point de vue, était un petit peu comme le programme français, 3 coups, et c'est terminé. Donc, nous avons commencé par la fondation, par la base, et nous avons essayé de trouver une solution à long terme, viable, qui puisse obtenir l'adhérence, la confiance du public. Parce qu'en fin de compte, pour ceux d'entre vous qui êtes aux États-Unis, lorsque notre programme a été annoncé, il a été vraiment très controversé. Il y a eu beaucoup de sceptiques dans les médias, au gouvernement, partout, dans tous les domaines. Si vous allez à Washington, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui savent vraiment encourager certaines opinions, qui parfois sont justes, mais bon, elles sont diffusées. Donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est de bâtir un document de manière à pouvoir traiter certaines des préoccupations clés qui existaient des deux côtés. Premièrement, les droits de la vie privée, parce que, de toute évidence, entretenir le côté privé pour nos clients, c'était essentiel pour bâtir la confiance, pour édifier la confiance dans le programme. Donc, la protection de la vie privée a été incluse dans notre protocole d'entente qui a été signé en 2011. Et ensuite, nous avons dans notre programme inclus un processus d'appel qui donc s'adressait à une partie tierce pour la crédibilité, l'acceptation dans la communauté plus large. Donc, nous sommes allés chez AAA qui s'occupe beaucoup d'arbitrage aux États-Unis parce que c'est donc eux qui s'occupent des appels pour les clients qui avaient été, par exemple, notifiés de manière inadéquate selon leur point de vue. Donc, beaucoup des principes qui ont été mentionnés par Alan, nous les avons utilisés. Donc, il y avait déjà la confiance à la base. Mais la clé de notre réussite, c'est le niveau d'engagement dans les deux camps. Et au bout d'un certain temps, Avec cette collaboration des deux camps, nous avons pu en arriver à une volonté de compromis. Voilà les clés. Donc, l'engagement, le compromis et des normes qui soient acceptables pour la communauté. Alan Grodberg, nous allons passer la parole à Roman, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, être bref, parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient poser des questions. Alors, je m'appelle Roman Hussey, Abus.ch, une organisation non gouvernementale pour laquelle je travaille lorsque j'ai un peu de temps en plus, lors de mon temps libre. Alors, Abus.ch travaille pour lutter contre la cybercriminalité en dehors de l'infrastructure des réseaux zombies. Donc, nous essayons de voir ce qu'ont les pirates sur l'Internet pour contrôler qui ont été enregistrés en ayant comme but de distribuer des programmes malveillants. Voilà ce que je fais. J'ai commencé à le faire en 2007, je crois. Et depuis cette époque, j'ai bloqué bord des cybermenaces. J'ai réussi à identifier des sites web qui suivent certains réseaux zombies. Donc, ces projets permettent de fournir aux participants de l'Internet la possibilité de télécharger des listes qui servent à protéger leur infrastructure, leur réseau, des actions de leurs ordinateurs. Donc, j'ai commencé par ce projet. Et au fil des années, il y a certains opérateurs de registre, certains bureaux d'enregistrement qui m'ont contacté et qui m'ont demandé ce à quoi ça correspondait, qui m'ont donc contacté. Et certains opérateurs de registre ont commencé à verrouiller certains de ces listes. Souvent, on n'a pas à suspendre un site web raté parce qu'on peut simplement notifier le site. Les domaines dont je parle sont enregistrés à des fins malveillantes. Donc, il y a un hacker qui enregistre un nom de domaine et 2 heures plus tard, on le voit dans une campagne malveillante, donc frapper l'Internet. Donc, voilà ce que j'essaye de solutionner. Ce que je fais également, je fournis des listes de blocage pour ce genre de choses. J'essaie également d'échanger des données de renseignement par rapport aux menaces avec d'autres partenaires publics de l'Internet. Donc, je parle aux ISP, aux bureaux d'enregistrement, aux opérateurs de registre. Je travaille également avec la Shadow Server Foundation, ainsi qu'avec d'autres fournisseurs de listes de blocage. Voilà ce que je fais en gros. Nous allons maintenant passer à Bénédicte. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Addis et je fais partie de votre comité consultatif sur la sécurité et la stabilité, mais je ne suis pas là à ce titre. Je suis là pour vous présenter le bureau d'enregistrement de dernier recours, qui est en fait un bureau d'enregistrement CAN qui a été mis en place pour s'occuper du problème qui vient d'être introduit. J'ai travaillé dans les forces de l'application de la loi par le passé et une des choses qui est assez étrange par rapport aux abus dans l'Internet dans ce domaine, c'est que les forces de l'application de la loi s'adressent à la communauté en vous suppliant, tout en vous disant qu'ils sont l'autorité. Ce que, en dehors de la juridiction, de sa juridiction, en fait, ce que l'on peut faire, c'est informer des activités illicites en espérant que les gens vont donc éliminer les sites. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde au sein de ce panel a son propre champ, son propre domaine de travail et est très engagé par rapport à ça. Ce qui émerge, c'est qu'il y a un problème d'échelle parce que tout le monde contacte de manière bilatérale chaque fournisseur, chaque représentant d'organisation, mais qu'en fait, il y a très peu de coordination. C'est exactement la même chose au niveau des forces d'application de la loi. Étant donné qu'il y a un manque de diligence, un manque de coordination, souvent, on s'adresse de manière directe au bureau d'enregistrement et parfois, il y a chevron et il y a un manque de bonne organisation. Donc, je suis là pour vous parler d'un nouveau projet qui existe depuis un certain temps Et j'ai eu la stupidité de me porter volontaire pour le mettre en place. C'est un bureau d'enregistrement accrédité par la CAN. Il est à but non lucratif. Il est transparent et il accepte des domaines qui ont été utilisés pour attaquer la sécurité et la stabilité de l'Internet. Donc, malheureusement, je ne peux pas aider la plupart d'eux. Nous ne prenons pas les rapports sur la base du contenu, mais sur la base du spam, du hameçonnage et sur la base des listes qui viennent d'être exposées. Et comme vous le savez, le problème des réseaux zombies est massif et nous avons vraiment du mal à gérer. Il y a l'algorithme, il y a le moyen par lequel une machine infectée revient vers son contrôleur, soit pour voler des informations ou pour attaquer quelqu'un. Il y a génération, par exemple, de 1000 domaines par semaine qui pourront recevoir les instructions des machines infectées. Mais finalement, on s'adresse à 2 ou 3. Donc, on ne voit pas dans la communauté. Mais chaque machine infectée va passer par cette liste. Et donc, finalement, c'est une lutte constante parce que chaque semaine, chaque jour, il faut s'enregistrer ou alors il faut bloquer des milliers de noms de domaines. 30 à 50 familles à chaque fois qui sont présentes. Et entre-temps, les gens qui gèrent ces de zombies n'ont à enregistrer que 3 d'entre eux pour obtenir le contrôle de ce réseau de réseaux zombies. Et on parle de milliers d'ordinateurs. Donc c'est absolument heureux comme situation. Alors, ce qui m'a réellement embêtée lorsque j'étais représentant des forces de la loi, c'était CryptoLocker. C'était un projet qui verrouillait les ordinateurs et qui demandait en fait une rançon pour leur renvoyer leurs informations. Donc, il leur demandait 300 euros pour leur renvoyer leurs propres données. Et cela a coûté l'a coûté extrêmement cher pour donc s'occuper de ce problème. Donc voilà, maintenant il faut que je termine, mais le bureau d'enregistrement est fait pour traiter ce problème de manière à coordonner les informations de toutes les personnes qui signaleront un problème et les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre sont impliqués. Donc notre travail est complètement transparent et nous sommes prêts à travailler avec n'importe qui. Donc, j'encourage tous les bureaux d'enregistrement, tous les opérateurs de registre qui sont présents dans la salle à s'adresser à moi.
Thank you, Michael.
Merci, Dave. Merci beaucoup, Alan. Je parle aujourd'hui en tant que membre du comité directeur anti-hameçonnage et du comité directeur pour l'Union européenne. Je vais essayer d'être assez bref. Il y a 2 programmes sur lesquels le comité directeur anti-hameçonnage travaille et qui sont particulièrement importants pour la communauté. D'abord, l'un qui est très semblable à celui que Bénédicte vient de nous mentionner. Il s'agit d'une chaîne spécifique d'hameçonnage, de recherche d'URL. Il y a 44 millions actuellement d'URL et on a commencé récemment à utiliser l'URL Facebook. Malheureusement, ça représente 2 millions d'URL par mois. Donc, on a essayé de parer au plus urgent. J'aimerais souligner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais souligner ce qu'on fait exactement. Alors, en général, la personne qui fait du hameçonnage, elle commence par enregistrer un nom de domaine. Et cette personne héberge un site pour enregistrer ce nom de domaine. Et ensuite, il y a une campagne en utilisant des informations malveillantes. En général, l'une des listes de blocage qu'on utilise, dont on a parlé, permet d'identifier les informations fournies par le client, ce qui atténue les problèmes pour les personnes qui sont protégées par les listes de blocage. Mais, comme ça a été dit, étant donné le contenu, où la seule solution, c'est de bloquer le site. C'est la seule solution, malheureusement, dont on dispose. Donc, on a une solution à certains de ces problèmes au sein du comité directeur. Et ça s'appelle le programme de suspension des programmes malveillants. C'est un programme qui peut être mis en œuvre par tout bureau d'enregistrement ou opérateur de registre et qui a été mis en œuvre par 20 entités pour l'instant. Il y a des personnes qui sont de bonne confiance, qui ont bonne réputation et qui soumettent des informations qui sont directement fournies ou présentées au bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement a confiance parce qu'ils connaissent cette personne, donc ils attestent la crédibilité et la confiance. Donc si quelqu'un est intéressé par ce programme, je serais tout à fait ravie de vous en parler, surtout les bureaux d'enregistrement qui sont ici dans la salle et qui participent d'ores et déjà à ce programme. Je vous en remercie. D'ailleurs, je pense que c'est un excellent processus qui va nous aider à atténuer certains des problèmes que nous rencontrons. Merci. Merci, Dave. Frank Cullen. Frank Cullen au micro. Merci beaucoup. Au nom de la Chambre de commerce des États-Unis, qui représente 3 millions d'entreprises au niveau international, nous sommes très préoccupés par l'activité criminelle en ligne. Nous considérons que ces activités volontaires constituent un outil pour lutter contre ce problème grave. Nous pensons que cela affecte non seulement nos entreprises, mais également la sécurité de nos consommateurs, comme on l'a dit auparavant. Également les particuliers et les entreprises en téléchargeant des informations malveillantes et autres types d'informations. Donc la Chambre de commerce des États-Unis considère que c'est un problème grave. Récemment, nous avons soutenu une initiative volontaire qui a été mentionnée, le groupe TAG, soutenu par le Advertising Bureau et d'autres agences. Et la EB, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et nous considérons qu'il s'agit là d'une initiative qui doit aller au cœur de la confiance des gens vis-à-vis des marques posées et de l'intégrité de ces marques. Il y a eu certains problèmes par rapport à ces accords. Ils dépendent du niveau de participation. Donc, pour que ces mesures soient efficaces, il faut que les gens participent réellement à ce programme, s'y engagent. Et très souvent, il y a des accords volontaires qui sont bien pensés, ce sont d'excellentes idées, mais en dernier ressort, ils ne permettent pas de régler les problèmes. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il y a le risque d'intrusion du gouvernement. Nous sommes la Chambre de commerce des États-Unis. On pense qu'il doit y avoir une intervention à un certain niveau, mais que les affaires, surtout dans l'espace d'Internet, doivent répondre aux intérêts des entreprises et des consommateurs. Donc, s'il continue d'y avoir des activités criminelles dans l'espace Internet et qu'on n'arrive pas à régler le problème, le risque réel est qu'il y ait une intrusion des gouvernements. Et comme cela a été dit auparavant, ça existe non seulement dans l'Union européenne, mais également aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a une incertitude pour les entreprises et pour le consommateur, vous créez des risques additionnels. Donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et autres, dépendent de leur marque et de la confiance des consommateurs. Donc, lorsque vous exposez vos clients à la criminalité et autres, alors vous mettez en risque, vous exposez à des risques votre marque. Donc, toutes les entreprises de divertissement et autres des affaires en ligne doivent s'assurer qu'elles fonctionnent dans un espace sûr. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est que nous comprenons qu'il y a des échelles ici par rapport à ce qui a lieu dans l'environnement en ligne. Comme John et Marjorie en ont parlé, il y a le problème de la sûreté des produits pharmaceutiques. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils achètent parfois des produits frauduleux. Mais il y a d'autres problèmes. Ces médicaments sont parfois fabriqués par des enfants avec des mauvais matériaux. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une activité criminelle, mais de plusieurs activités criminelles. Donc, il ne faut pas voir cela comme étant une activité criminelle unique, mais voir l'image d'ensemble. Donc, je vous invite à examiner l'existence de toutes ces activités volontaires qui existent, ces initiatives volontaires qui existent. Il y a des choses qui sont en place pour essayer de régler ce problème et il faut faire face à ces obligations. Nous apprécions les efforts de l'ICANN dans ce sens et nous pensons comme je l'ai dit auparavant, que les initiatives volontaires font partie de la solution, mais nous aimerions également qu'il y ait des efforts en termes de conformité contractuelle et autres types pour régler les entreprises auxquelles les entreprises sont confrontées, que tout le monde prenne ce problème au sérieux. Alan, merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai une demande de quelqu'un pour qu'on vous fournisse les contacts de tous les membres du panel. Ça va être fait. Bertrand de la Chapelle, vous avez 5 minutes pour nous parler de votre projet. Je m'excuse, je crois que nous n'aurons pas le temps de la séance questions-réponses. Bonjour à tous. Brièvement, Bertrand de la Chapelle au micro. Le problème ici, c'est surtout un problème de juridiction qui existe du fait que l'Internet, par définition et par nature, est transfrontalière. Alors, en dehors des outre les problèmes qui ont été mentionnés jusqu'à présent, il y a un problème de contenu qui est légal quelque part et illégal dans un autre pays. Par exemple, l'incitation à la violence, etc. Donc, il n'y a pas de cadre international qui permette de résoudre ce problème à l'heure actuelle. Et il est peu probable qu'il y ait une harmonisation sur le fond, ni une restriction potentielle sur la liberté d'expression, parce que ça diverge d'un pays à l'autre. Donc le défi principal, c'est le suivant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de cadre international et les traités internationaux ne fonctionnent pas dans ce domaine. Donc sans rentrer dans le détail, la réalité actuelle veut qu'il y a aujourd'hui une demande croissante de fermeture de sites qui sont traités directement dans un pays par les forces d'application de la loi, et dans un autre pays, comme Google ou d'autres plateformes, ou par des opérateurs. Et ça donne lieu à un certain nombre de problèmes, parce que ça force les acteurs privés à prendre des décisions qui entraînent toute une série d'implications en termes de liberté d'expression et autres, et ça peut donner lieu à des situations très déplaisantes. Et également pose des problèmes en termes de procédure. Donc, sans rentrer dans trop de détails, j'aimerais aborder la question de l'utilisation du DNS comme couche au niveau pour traiter la question du contenu. Et là, il y a un profond manque de compréhension dont vous êtes peut-être conscient, à savoir qu'il est très tentant, lorsqu'il y a un contenu qui est illégal dans un pays, de s'adresser à l'opérateur pour lui dire « oui, il faut changer cela ». Le problème est le suivant. Il faut présenter un principe et réaffirmer la notion selon laquelle le DNS est une couche globale et neutre. Et que fondamentalement, toute action qui intervient à ce niveau a un impact global. Par conséquent, il devrait surtout être utilisé pour des questions qui ont un impact mondial, par exemple un abus ou une menace rapport à ou un dommage par rapport au DNS. La question liée au contenu, comme ça a été dit, tout le monde, est la suivante. S'agissant du contenu, il est légitime d'utiliser la couche du DNS uniquement si tout le domaine a été utilisé à des fins étant considéré au niveau mondial comme inacceptable. Et je pense que c'est un message tout à fait différent de savoir d'où vient l'entreprise, etc. C'est un principe général. Cela étant dit, ce que nous faisons, c'est que l'on est en train de faciliter, d'encourager un dialogue entre plus de 100 personnes, entre gouvernement, société civile, principales plateformes de l'Internet, organisations internationales, y compris l'OCDE, le Conseil de l'Europe, l'Interpol, la Commission européenne, etc. Et l'objectif est de développer un processus en bonne et due forme pour la saisie de domaines, la clôture de sites et l'identification. Et ce cadre en est maintenant à un stade où il y a une architecture qui repose sur 2 piliers, soumission de demande et gestion de la demande. Soumission de la demande qui tourne autour de modèles et de formats de demande, et la gestion de la demande s'articule autour de la documentation, des documents concernant les meilleures pratiques en vigueur et les critères communs. Je m'en tiendrai là, mais l'objectif principal, c'est d'avoir un mécanisme et un système qui garantissent l'interopérabilité juridique. Donc, les acteurs soumettent une demande et ceux qui reçoivent cette requête ont une même compréhension. Tous ceux que cette question intéresse, j'ai ce document. Donc, si vous voulez plus de détails ou une description plus détaillée de ce système, n'hésitez pas à venir me voir. Et certains des acteurs qui se trouvent dans la salle sont activement engagés dans ce processus. Donc, nous avons énormément de participants et nous en attendons encore plus les prochaines années. Merci beaucoup. Alain Omeko, nous en sommes à la fin de notre réunion. Sachez que je vais publier donc le nom des membres des panels et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc, pour résumer un petit peu la séance d'aujourd'hui, initiative volontaire que vous êtes tout à fait invités à utiliser pour avoir recours à ces listes de blocage et autres. Donc, négocier ensemble un cadre pour régler certains de ces problèmes, que ce soit par leur propre initiative ou en passant par l'intermédiaire d'un médiateur. Je ne pense pas que l'ICANN doive jouer le rôle d'intermédiaire ici, en raison de notre mission. Mais on a entendu les résultats réussis qui ont été obtenus. Donc, un cadre négocié en dehors de l'ICANN pour une réglementation volontaire fondée sur les intérêts du marché. Merci de du temps que vous nous avez consacré. On se revoit plus tard. Merci. Oh, no, not even.